Justement, nous, eh bien, nous sommes là pour cette dernière table ronde, la deuxième de cet après-midi, intitulée « Institutions et partenaires » vient de se terminer, avec énormément d'intervenants et des propos que nous retenons facilement, Jean-Paul, surtout lorsque nous nous déplaçons dans les écoles pour aller eh bien, faire de la radio et faire découvrir le média radio aux élèves, notamment le dernier intervenant, Monsieur Alain Kerlan, philosophe de l'éducation, qui vient de parler justement d'une expérience en web radio autour du théâtre où les élèves eh bien, découvraient à la fois les voix, découvraient à la fois l'univers de la radio et surtout apprenaient à s'écouter et à se parler. Très intéressant.
Absolument, quelque chose que l'on a l'habitude de faire nous-mêmes sur l'Académie de Nice, et c'est un petit peu le rôle de Cap Radio aussi, puisque Cap Radio c'est un peu la vitrine de ce que l'on veut apporter dans les établissements scolaires. Et c'est vrai qu'on a toute l'année pour projet d'aider les enseignants, les personnels de direction à créer, à monter des web radios. Et on a effectivement vu cette transformation des élèves face au micro, des élèves parfois en échec qui, devant un micro ou devant l'activité qu'on leur propose, s'épanouissent. On arrive à les faire écrire, on arrive à les faire lire sans même les forcer.
Il y a une vraie prise de conscience autour justement de ce média et des sujets qu'ils ont choisi d'aborder, puisque ce qui est important aussi, c'est de les laisser s'exprimer autour de sujets qui vont les intéresser, ne rien leur imposer. Et de leur propre chef, eh bien, ils vont avoir une démarche complètement active, complètement créative et surtout complètement en pleine conscience de ce qu'est un travail sérieux pour le rendre intéressant pour eux d'une part et puis surtout pour les autres, ceux qui vont les écouter.
C'est ça. Et ce qui impose, et ce qui est assez étonnant aussi, c'est qu'ils s'imposent un niveau d'exigence que les professeurs n'arrivent pas forcément à obtenir sur un simple travail scolaire où seul le professeur va lire la copie et corriger.
Je me souviens d'une réflexion que nous nous étions faites lors du lancement d'une web radio, justement, dans le quartier des Moulins, à Nice, au collège Jules Romain, un quartier plutôt difficile, où justement, dans une classe de 6e, où les élèves étaient particulièrement en difficulté. Pardon, on est en direct, là, il y a du monde autour de nous. Ça s'agite et le plateau va bientôt redémarrer. Je termine le propos où justement les élèves étaient particulièrement assidus et consciencieux à répéter même les interventions. Et
à venir sur des heures de liberté.
De liberté, alors qu'ils n'avaient pas cours, exactement. Et pour fournir un travail d'une qualité, on va dire, exceptionnelle au regard de ce qu'ils avaient l'habitude de fournir habituellement en classe, nombre de personnalités, de journalistes étaient là, tous avaient été très impressionnés et notre réflexion avait été, mais s'ils travaillaient comme ça dans toutes les matières, ils auraient 20 sur 20 partout. Voilà. Donc, pourquoi pas introduire davantage, justement, le média radio dans les écoles, dans les collèges,
et
dans les lycées.
Nous œuvrons pour ça tout au long de l'année.
Je vois que la table ronde commence à se préparer, les nouveaux invités sont déjà installés. Et je crois qu'en fait, ça va être la clôture
la
de cette
la
journée.
La table ronde de conclusion, quand même avec une thématique, le rôle et l'engagement des pouvoirs publics.
Les quatre derniers intervenants interviennent dans le sens du rôle et de l'engagement des pouvoirs publics. Je vais passer successivement dans l'ordre la parole à Christopher Miles, qui est secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication, puis à Mathieu Protin, qui est chargé de mission au cabinet de Najat Vallaud-Belkacem, et puis deux derniers membres qui sont des membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle, Frédéric Dumas, conseiller régional d'Île-de-France, Association des régions de France, et Florian Salazar-Martin, président de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture. Christopher.
Parler d'éducation artistique et culturelle, de nos responsabilités et de nos engagements, c'est ça ?
C'est ça.
J'ai envie de parler de ma responsabilité personnelle. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie qu'aujourd'hui, le ministère de la Culture ait une vraie politique d'éducation artistique et culturelle ? Il y a une première raison. La première raison, c'est une petite fille qui s'appelait Victoria, que j'ai connue quand j'étais au théâtre de l'Odéon, et qui a vu Arlequin serviteur de 2 mètres à 6 ans. Et puis Victoria a grandi, c'est maintenant une jeune fille qui a 25 ans, le temps passe vite. Sauf que Victoria, entre 6 ans et 25 ans, elle ne s'est jamais sentie très bien à l'école. Sauf que l'école, parce que Victoria était dyslexique, n'a jamais bien accueilli Victoria. Mais Victoria, comme elle était dans le milieu du théâtre, toute sa jeunesse, toute son enfance, toute son adolescence a fait du théâtre. Et puis, par l'intermédiaire de sa maman, qui travaillait au théâtre de l'Odéon, elle a rencontré Luc Bondy. Et puis Victoria, il y a un an, a vraiment commencé à faire du théâtre et elle a dit « je vais monter les trois sœurs ». C'est gonflé quand même, à 25 ans, de monter les trois sœurs. Et j'ai été voir le spectacle il y a 3 mois et j'ai pleuré. Parce que ce qu'a présenté Victoria était extraordinaire de sensibilité, de finesse, d'intelligence. Ça, c'est juste pour vous dire que parfois l'école n'accueille pas très bien tous les enfants et que les institutions culturelles, l'accès à l'art et à la culture peut aussi être une école. Alors, en conclusion, j'anticipe sur ma conclusion, il ne faudrait pas non plus attendre de l'art et de la culture qu'ils remplacent l'école et l'engagement citoyen. Donc, oui, une politique d'éducation artistique et culturelle pour le ministère de la Culture, eh ben, c'est d'abord de faire de la bonne culture, entre guillemets, pas au sens bon ou mauvais, mais au sens être producteur, permettre à des créateurs de s'exprimer, transmettre un patrimoine monumental aussi, parce que c'est souvent à côté de chez vous, par une visite d'un château, d'un musée, d'un monument, qu'aura lieu votre premier contact avec la culture et avec l'art. En ce sens-là, cet objectif de maintien des positions du ministère de la Culture sur la culture, il est tout à fait essentiel. Il ne faudrait pas non plus, je crois, surestimer nos capacités et notre pouvoir. Que peut le ministère de la Culture ? Et c'est presque à peine, toujours un peu plus, toujours un peu moins, 1% du budget de la culture par rapport à l'ampleur du budget du ministère de l'Éducation nationale et les troupes qu'il mobilise et qu'il mobilise maintenant de plus en plus et de mieux en mieux au service de l'éducation artistique et culturelle. Ben, il peut, à sa place, sans parler du colibri, mais à sa juste place, essayer de faire quelque chose en tenant des positions budgétaires d'abord, évidemment. Donc, je ne vais pas me retourner vers mon voisin de la politique de la ville, mais j'ai envie de lui dire, c'est super de mettre 10 millions d'euros maintenant, mais je vous rappellerai que vous nous aviez piqué 15 il y a 8 ans, qu'on a transféré à l'accès, qu'il n'y en avait plus que 7 apparemment il y a 2 ans, et qu'on est remonté à 10, c'est top, donc il en manque plus que 5, et on sera à nouveau au niveau d'il y a 10 ans. Alors le ministère de la Culture, c'est 30 pauvres millions consacrés uniquement à l'éducation artistique et culturelle, mais c'est aussi évidemment des centaines de millions d'établissements et opérateurs culturels importants, beaucoup concentrés en Île-de-France, je le sais. Certains ont un réseau territorial, comme le Centre des Monuments Nationaux. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, ce que disait Isabelle Millet, c'est vrai. C'est-à-dire que grâce à l'action conjointe et en réseau et en territoire de nos conseillers, qui étaient presque 25 et qui vont passer à 50 en 3 ans, grâce au fait qu'on a presque doublé nos crédits et que nous les doublerons d'ici 2017, il y avait grosso modo 20% des enfants en âge d'étudier qui étaient touchés par des actions de l'éducation artistique et culturelle. Et aujourd'hui, on est à peu près un tiers. Et on souhaiterait, d'ici la fin de l'année prochaine, la fin de l'année 2017, atteindre 50% grâce aussi aux actions qui sont menées, bien entendu, par nos opérateurs et nos établissements, bien entendu, par le CNC, bien entendu, par certains grands établissements fédérateurs du ministère. La Réunion des musées nationaux est en train de travailler sur un kit, dans un objectif qui est simple, main dans la main avec l'éducation nationale, parce qu'elle a encore les moyens d'agir, de plus en plus difficilement avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, parce que, heureusement, l'éducation populaire existe toujours grâce à de grands mouvements associatifs, mais le soutien, la maille, la structuration repose sur cet engagement associatif d'une part, repose sur l'engagement des collectivités et les fameuses maisons des jeunes et de la culture d'autre part, mais aussi peut reposer sur un réseau administratif qui est en train de se réduire à vue d'œil sous nos yeux, qui était l'ancien réseau des inspecteurs de la jeunesse et des sports, des gens qui ont pu, à leur niveau, promouvoir des mouvements d'éducation populaire et qui ne sont plus là et de moins en moins là aujourd'hui. Et c'est une préoccupation intense pour nous. Ça nécessite donc de mettre des moyens, je le disais. Ça nécessite de développer un partenariat, et un partenariat, c'est jamais simple, ça a des hauts, ça a des bas. Un travail avec les collectivités territoriales, bien entendu, un travail de conventionnement, 350 conventions d'éducation artistique et culturelle sur l'ensemble des territoires, dans deux objectifs très simples, travailler sur l'égalité. Et l'égalité, ça veut dire que par rapport à ce que nous avons fait pendant des années, grosso modo, arroser là où ça pleut, c'est-à-dire des collectivités volontaires qui nous disent, voilà, on a envie de faire des choses, on fait des choses, on fait des classes à Pâques, on fait des classes à options dans les lycées, demander de changer de méthode et d'aller, même si ce n'est pas d'actualité aujourd'hui, d'aller là où ça ne pleut pas. C'est-à-dire d'aller dans les territoires ruraux, d'aller dans les zones de la politique de la ville. Et bien entendu, on travaille avec le ministère de la ville et on est heureux de le faire. On a signé une nouvelle convention avec eux parce qu'ils nous ont expliqué qu'ils n'avaient plus du tout d'argent, du tout pour travailler et que donc maintenant, ils avaient besoin de nos crédits dits de droit commun. Et ça veut dire qu'à minima 30%, et en réalité, c'est plus près de 40 ou 45% des crédits nouveaux que nous mettons sur l'éducation artistique et culturelle vont sur les crédits de la politique de la ville. Travailler aussi pour la citoyenneté, ça veut dire aller rechercher avec les DRAC des projets artistiques et culturels, et je dirais plus des projets que de l'éducation artistique et culturelle, des projets artistiques et culturels qui, au niveau d'un territoire, vont travailler sur cette notion de citoyenneté, en interrogeant enfin une dernière chose qui a été citée de manière très pertinente par Laurent, c'est qu'est-ce que c'est l'éducation artistique et culturelle aujourd'hui à l'ère de l'accès, à l'ère où théoriquement tout est accessible. Je fais partie d'une génération où quand on allait acheter un disque, c'était cher, c'était compliqué et on n'avait pas accès à toute la discographie. Aujourd'hui, vous tapez David Bowie sur votre portable et vous avez toute la discographie de David Bowie. C'est un progrès extraordinaire. Ça n'empêche pas qu'il faut aussi savoir quelle est la place de David Bowie dans l'histoire de la musique, ce qu'il a apporté, quel est son lien avec d'autres artistes, etc. Et que ça peut s'apprendre à l'école, ça peut s'apprendre différemment, par d'autres méthodes. Et ce à quoi aussi nous allons travailler en développant cette expérimentation et en essayant, par une stratégie numérique du ministère de la Culture, de travailler sur cette nouvelle approche sensible de la culture pour une nouvelle génération qui n'a plus grand-chose à voir avec celle qui nous précédait. Alors, cher Emmanuel et Etis, je voulais vraiment vous remercier de cette journée parce qu'elle nous apporte aussi la preuve que le terrain est vraiment générateur d'une multiplicité d'expériences dans ce site dédié à Louis Pasteur qui nous disait « Ayez le culte de l'esprit critique ». Je crois que beaucoup de choses se sont exprimées aujourd'hui. Je regarde un petit peu mon papier parce que j'ai été très sensible à ce qu'a dit le président de l'université au-delà du fait que notre politique d'éducation artistique et culturelle est axée aussi sur le français, et j'ai relevé des termes de coworking et de un peu franglais, mais j'ai surtout été frappé par ce qu'il disait quand il disait que nous sommes des chasseurs de démons, je crois que je reprends très exactement ces termes, et quand il exprimait, je cherche aussi la phrase, voilà, qu'il fallait guérir les âmes meurtries et que rien ne se pourrait faire sans l'empathie. Ça m'amène à une question qui est très simple. Si je regarde le parcours que j'ai pu avoir au pied de la tour Trio de Montfermeil, dans une municipalité communiste, tous les mercredis, nous avions des films de cinéma, nous avions des enseignants qui nous emmenaient au cinéma. Puis plus tard, dans le Loiret, j'avais accès à l'éducation populaire et au scoutisme laïque, et c'est là que j'ai la première fois développé des photos, fait des films d'animation. Puis par l'école, des professeurs, des enseignants qui m'ont fait faire du théâtre amateur, au collège comme au lycée. C'est cette question de la formation des enseignants et de la manière dont on les traite. J'entends beaucoup que c'est formidable, qu'il y a des projets, etc. Je souhaite vraiment qu'on puisse travailler avec l'éducation nationale sur la manière dont les actions menées à titre bénévole dans le cadre scolaire ou dans le cadre extrascolaire par les enseignants soient mieux valorisées dans leur parcours de carrière et dans leur notation. C'est une proposition que je fais, elle ne vient que de moi, elle vient aussi de cette séance ici, mais je crois que c'est absolument fondamental, c'est absolument essentiel. Il y a toute une génération qui est en train de partir et qui a besoin d'une relève. Cette relève n'a pas du tout le même accès au militantisme et à la relation avec les élèves. Et si nous ne travaillons pas à ça aujourd'hui, je pense que nous aurons des grandes difficultés à trouver des relais dans l'avenir. Voilà ce que je pouvais dire pour aujourd'hui. Alors, on va continuer, on va travailler sur des projets un peu innovants, car au pied de ce stade municipal de Montfermeil, où nous faisions de la gymnastique rythmique devant les élus communistes, il y avait effectivement cette tour, Utrio, et on est en train de travailler sur un projet expérimental qui va mélanger l'éducation artistique et culturelle, l'accès à des formations, l'accès aussi à une bouche de métro qui va arriver ici 25 ans après la promesse, même presque 50 ans après la promesse qui avait été faite, la co-construction avec les habitants, et j'ai siégé hier dans un jury qui travaillait sur la structure éphémère qui va s'implanter au pied de cette tour avant qu'elle soit détruite, puis reconstruite pour donner lieu à un équipement culturel qui ne sera pas, j'espère, le énième centre d'animation qui sera caillassé le jour où il y aura des problèmes dans la forêt à côté. Et je crois que, muni de cet espoir et de ce viatique, la seule chose que j'espère, c'est que dans les 3 années qui viennent, nous ne serons pas laminés par une nouvelle lame budgétaire dont nous ne remettrions pas. Voilà, merci. Merci.
Merci de ces mots et de ces mots très sensibles. Ça fait beaucoup de bien de la part des grandes institutions de porter cette sensibilité. Je vais passer la parole à un autre être sensible, Mathieu Protin, pour le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, d'abord, je voudrais repartir de la fin de ce qu'a dit mon prédécesseur, parce qu'effectivement, c'est un vrai enjeu et c'est une vraie question. Les deux questions, d'une part, celle de la formation, effectivement, sur laquelle on essaye de travailler, hein, notamment en ayant rétabli les écoles supérieures du professorat et de l'enseignement, qui sont des écoles dans lesquelles, de plus en plus, on voit apparaître des formations et qui sont souvent faites par des conventions avec des associations, des compagnies artistiques, etc., pour justement donner une véritable formation initiale aux enseignants en matière d'éducation artistique et culturelle. Et le deuxième point, qui est la question de la reconnaissance de ce qui nourrit finalement énormément de ces projets, c'est-à-dire le dévouement, l'engagement sur le terrain d'un certain nombre de professeurs. Alors, je n'ai pas la possibilité de donner une réponse immédiate à ce qui a été évoqué. Je tiens juste à dire que c'est quelque chose dont on a conscience et c'est quelque chose sur lequel on réfléchit aussi de notre côté. Parce que c'est une réalité, on ne peut pas ne pas accompagner ce qui se fait sur le terrain si on ne donne pas aux actions qui sont menées sur le terrain une véritable reconnaissance, et en particulier en termes d'investissement, un investissement qui, comme vous le soulignez très justement, est souvent bénévole. La difficulté au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'est évidemment que quand on parle du ministère de l'Éducation nationale, on parle souvent d'une immense machine, en tout cas d'une étendue avec un nombre de personnel extrêmement important, extrêmement impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'on fait en termes d'éducation artistique et culturelle ? La première chose sur laquelle je voudrais insister, ça a été évoqué, mais il faut le rappeler, c'est qu'avec la loi de refondation de l'école, on a l'éducation artistique et culturelle qui est inscrite dans le code de l'éducation. Alors évidemment, ce n'est pas très sexy d'évoquer des textes législatifs, etc., mais ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'il existe un texte de loi qui dit clairement, oui, l'art, la culture ont leur place au sein de l'école. Et ça, c'est un phénomène. On a vu un certain nombre d'interventions qu'il soulignait, hein, où on se dit, mais attendez, déjà apprenons à lire, écrire, compter, et puis l'art, on verra après. Le recteur l'a très bien dit, l'art, ce n'est pas un supplément, ce n'est pas le dessert, ce n'est pas la petite cerise sur le gâteau, si jamais vraiment on a le temps de pouvoir rajouter un peu d'éducation artistique et culturelle. Non, ça doit être là et ça doit être présent. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les textes et toutes les circulaires, mais j'aimerais juste évoquer avec vous le référentiel du parcours d'éducation artistique et culturelle qui a été publié il y a un an, au mois de juillet, un mois de juillet propice à la culture et à l'art, décidément. Et c'est un référentiel qui est important, pourquoi ? Parce qu'il définit au sein de l'école la manière dont on va mettre en place l'éducation artistique et culturelle. Et il définit en particulier trois piliers. Le premier, c'est la question des enseignements, notamment les enseignements artistiques, histoire des arts, enseignement musique, etc., etc. Mais il y a deux autres piliers. Et ces piliers, pendant longtemps, ils n'ont jamais été cités nommément. Le second pilier, c'est les rencontres. Et quand on parle de rencontres, on parle des rencontres avec des lieux, on parle des rencontres avec les artistes, ceux qui font l'art, ceux qui font la culture. On parle aussi de rencontres avec les œuvres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la manière même dont on envisage l'éducation artistique et culturelle, il y a déjà une place pour le partenariat et pour l'ouverture à la fois vis-à-vis de la culture, mais également vis-à-vis des associations. Parce que souvent, on a des remontées de terrain, hein, des gens qui nous disent « oui, c'est bien beau l'éducation artistique et culturelle, mais nous, on n'a pas d'institution culturelle dans nos territoires ». Et c'est pour ça qu'il faut rappeler qu'on parle de l'art et de la culture au singulier, mais il y a une diversité, une pluralité derrière ces termes au singulier. Ce sont des arts, ce sont des cultures. Et qu'on n'est pas obligé forcément d'aller dans la grande institution culturelle reconnue pour rencontrer des œuvres, rencontrer des artistes. Il y a aussi la possibilité de se rendre à côté de chez soi, et notamment aussi dans la question de la valorisation du patrimoine. Et puis, il y a un troisième pilier à ce parcours d'éducation artistique et culturelle, c'est la pratique artistique. Là encore, c'est dit clairement dans les textes. C'est dit clairement dans les textes. Alors, vous allez me dire, le texte ne fait pas tout. On sait bien qu'au théâtre, il y a toujours un risque soit de trahison, soit de débord, soit d'écartement. Mais malgré tout, les textes sont là. Et ça donne un cadrage. ça donne un cadre, plutôt, pour être très précis. Et on sait qu'un cadre, dans un tableau, c'est important aussi, puisque d'une certaine manière, ça permet de guider le regard. Et bien, l'idée des textes qui ont été mis en place au niveau du ministère, c'est justement de donner ce cadre-là. Et c'est un cadre qui, je l'espère, au fur et à mesure qu'on va avancer, va nous permettre de toucher de plus en plus d'élèves et d'arriver, comme il était évoqué à plusieurs reprises, là où il ne pleut pas. On parlait des pourcentages. Il y a eu récemment une étude qui a été faite sur l'Académie de Nantes où on atteignait 55% des élèves qui avaient une action d'éducation artistique et culturelle dans le cadre de leur parcours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on avance. Maintenant, il faut aussi tenir compte de tout ce qui a été évoqué. Le fait que parfois, on se dit « l'art, finalement, on s'en fout ». Je m'excuse, je n'ai pas forcément les bons mots, mais là-dessus, c'est quelque chose de très important. Parce qu'en fait, l'art et la culture, ce n'est pas opposé aux fondamentaux, ce n'est pas opposé à des visées d'insertion professionnelle, ça en fait partie, et ça nourrit bien au-delà de ce qui apparaît. Et l'idée fondamentale qui nourrit l'éducation artistique et culturelle au sein du ministère, c'est aussi celle-là. C'est aussi de rappeler cette légitimité et de l'accompagner, évidemment, à travers un certain nombre d'actions. Il y a eu la fabrique à chansons qui a été évoquée. Je pourrais aussi parler de la question de l'école en chœur. Mais j'avais vraiment envie d'insister sur une chose, c'est que on a les textes, on a un certain nombre de leviers, pour reprendre des vocabulaires administratifs que j'aime pas forcément, mais qui veulent bien dire ce qu'ils veulent dire, c'est-à-dire qu'on a les moyens d'action, mais je sens que ça ne fait pas rêver au premier rang. On a ces leviers, on a beaucoup de choses à faire, et ça va passer par de la formation. En décembre 2015, pour la première fois, il y a eu le premier plan national de formation conjoint entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale. J'espère que c'est le premier, c'est bien, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres parce qu'on a besoin d'une culture professionnelle commune sur la question de l'éducation artistique et culturelle. On a besoin de ne pas considérer que, oui, ça dépend de telle ou telle chose, mais on le fait si on a le temps. Non, ça doit faire partie de la scolarité de chaque élève. Et au niveau du ministère, en termes budgétaires, on a la chance d'avoir un certain nombre de budgets. Vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'on accompagne. Et on accompagne aussi avec la conscience que l'éducation artistique et culturelle, on ne la fera pas tout seul. On a la chance de voir passer dans nos établissements pratiquement 100% d'une génération. C'est énorme. Et ça, c'est une vraie chance. Mais pour réussir à s'en emparer véritablement, oui, ça passe par l'ouverture. Oui, ça passe par les partenariats. Et on ne cesse d'insister là-dessus. Oui, l'école doit être ouverte. Oui, elle a besoin des associations. Et non, elle ne peut pas tout toute seule. Elle a des responsabilités et elle les prend, en particulier dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle. Mais de la même manière qu'on sait très bien que derrière un spectacle, il y a finalement une mobilisation collective énorme. Derrière même le moment qu'on est en train de vivre, il y a une mobilisation collective énorme. Et bien de la même manière, si on veut réussir ce grand enjeu de la démocratisation de l'éducation artistique et culturelle, et bien ça passe aussi par une ouverture de l'école, par un partenariat. Et je tiens à vous le dire, on est prêt à jouer le jeu, on est ouvert, ça se fait déjà énormément sur le terrain et vraiment l'enjeu est immense. Et voilà, je suis content de voir, comme cet après-midi, autant d'acteurs, autant de gens autour de cette question. Pardon, j'ai été trop long.
Le mot empathie a été prononcé plusieurs fois. Il l'a été par Frédéric lors du dernier Haut Conseil. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, Frédéric. Je vous donne la parole maintenant.
Parler du mot empathie, mais en fait, Emmanuel, vous avez été le premier à le prononcer, Christopher l'a prononcé, le président de l'Université d'Avignon l'a prononcé, donc voilà, je trouve que ça avance. Donc, pour parler de choses positives, d'abord, c'est assez impressionnant, toutes les expériences qui ont été présentées, les engagements que ça représente et les convictions, puisque c'est, je crois, Olivier Pic qui a parlé de convictions. Donc ça, c'était quand même assez significatif. L'autre chose aussi qui m'a frappée, j'ai fait partie du Haut Conseil à l'éducation artistique et culturelle en 2005, donc de 2005 à 2008 à peu près. Gilles de Robien et Renaud de Nieuwab. Donc là, je reviens maintenant. Donc je vois l'évolution impressionnante, je dois dire, du côté de l'éducation nationale. Il y a une espèce de... C'est énorme, hein, quand même. Donc Déjà, l'évolution dans les textes qui reste importante, parce que si effectivement on n'a pas les leviers, il y a eu l'introduction de l'histoire de l'art et récemment, comme vous dites, la pratique artistique, les rencontres et la formation, parce que ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de formation, il ne se passera rien. Donc ça, c'est des avancées énormes. Maintenant, je pense quand même que, et ça a été souvent dit, il y a eu des petits signaux d'alarme qui ont été tirés, ça va bien, mais c'est pas bien, bref, voilà. On n'ose pas dire que ça va bien, on est pas bien, mais on se dit que ça va. Parce que le fait, même si autour de cette table, et les représentants du ministère de l'Éducation nationale le disent maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, qui est de placer vraiment la culture comme la base, je sais pas, le dessert, etc. C'est vrai que c'est dit maintenant, c'est bien. Mais moi, je suis un petit peu sceptique sur les chiffres, même si déjà, de toute façon, ils sont... Même si on est à 39% ou à 30% ou à 40%, c'est déjà... peu, finalement, mais je suis même pas sûre qu'on soit à ça quand même. Mais bon, s'il y a eu ces évaluations quantitatives, c'est que les chiffres sont justes. Mais moi, je pense qu'il y a franchement une vraie fracture culturelle. Elle est énorme. Et je pense qu'aujourd'hui, l'éducation artistique et culturelle, elle est plus au-delà même de la base, au préalable, etc., elle est vitale. Elle est vitale et essentielle pour deux raisons. La première, pour une raison qui est qu'on est dans un monde qui bouge, bon, on est tous d'accord de plus en plus, qui va très vite. Et si on veut fabriquer des cerveaux qui s'adaptent, je pense que ça passe par l'éducation artistique et culturelle. Et on est plus dans un monde, on passe d'un monde de compétition, et on reste encore dans un monde de compétition, à un monde de coopération, où l'empathie et tout ce qui est effectivement développant des compétences sociales et cognitives est fondamental. Donc, d'où l'importance vraiment de l'éducation artistique et culturelle. Et la deuxième chose, c'est, on l'a vu après tout ce qui s'est passé en janvier ou en novembre, on a pu constater donc une perte d'identité et de cohésion sociale qui est très importante. Elle n'est pas, à mon avis, uniquement dans les quartiers défavorisés de politique de la ville ou dans les zones rurales. Elle traverse un peu toute la société. Et on assiste de plus en plus, quand on regarde ce qui se passe en termes de radicalisation, que ça peut se passer vraiment dans des familles. Le père est médecin, la mère pharmacienne, etc. Franchement, ça atteint tout le monde. Ça veut dire qu'il y a vraiment une crise d'identité. Donc... moi, j'avais envie de dire une seule chose, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire, on l'a vu, hein, donc de toute façon, je pense d'abord que l'éducation artistique et culturelle, elle doit être le chantier, le grand chantier du futur président ou de la future présidente de la République, puisqu'on va rentrer dans des élections. Je pense que il faut absolument que ça soit porté à ce niveau-là. Et l'autre chose aussi que je pense fondamentale, c'est vraiment... Même si tout le reste doit être fait, on en a parlé de l'école primaire à l'université et on doit absolument continuer, mais je pense absolument nécessaire de mettre une priorité à l'éducation artistique et culturelle dès le plus jeune âge. Parce que si on ne le fait pas là, c'est... Après, évidemment, on rattrape. Il y a toujours l'exemple de Victoria, par exemple, qui a été rattrapée. Mais disons que je pense que si on ne le fait pas au début, après, c'est là où on a ces problèmes de moyens. On ne trouve pas les moyens de rattraper tout. Donc, dès le plus jeune âge, et je pense, pour revenir à ce problème qui a été un enjeu anthropologique carrément, parce que tout le monde dit que c'est la base et le préalable, mais je pense que ça reste intellectuel, c'est pas ressenti profondément. Et je trouve que c'est intéressant de se baser sur toutes les recherches scientifiques qui sont faites. Parce que je pense que chez nous, comme on est cartésien, il faut démontrer aux gens que c'est scientifique. Voilà. Et il y a Radio France qui a fait un cycle l'année dernière et qui fait encore un cycle cette année des rapports de la musique avec le cerveau. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit aussi la jeune femme de la SACEM. Parce que je pense que c'est vraiment dès le plus jeune âge. Bon, moi, je suis présidente de la commission culture d'Île-de-France. On va avoir un énorme... ça va être une priorité absolue, l'éducation artistique. Et on fera des annonces à la rentrée. Mais l'Orchestre national d'Île-de-France travaille déjà sur un kit, même pour carrément les bébés. Puisque nous, on pense fondamental vraiment de montrer, de démontrer que scientifiquement... ça permet évidemment de développer donc ces compétences sociales et cognitives, et donc ça doit être
une priorité des pouvoirs publics, évidemment de l'État, et évidemment en partenariat, puisque ça ne peut pas se faire si ce n'est pas en partenariat avec les collectivités locales, avec le monde associatif, avec le monde de l'entreprise. Voilà. Merci
beaucoup. Florian, tu vas conclure.
Oui, mais je ne vais pas conclure, je vais simplement apporter ma petite pierre. Bonsoir, parce que je crois qu'il est déjà en fin d'après-midi. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai que pour nous qui sommes avons une expérience certaine, n'est-ce pas Emmanuel ? C'est vrai que les choses ont évolué, mais est-ce que les choses ont évolué en même temps que les enjeux auxquels nous sommes confrontés ? J'en suis pas sûr, et ma collègue tout à l'heure le disait, on est dans un monde bouleversé où on a besoin de refonder les politiques publiques. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer l'école comme ça. On ne peut pas continuer les rapports qu'on a les uns et les autres dans nos sociétés comme ça. Il y a un bouleversement de la pensée et on voit qu'elle affecte toutes les valeurs qu'on porte. Toutes les valeurs sont remises à un niveau profondément égalitaire et il faut reconstruire d'autres valeurs, des valeurs dont on a vraiment besoin pour recréer de l'espoir, parce que je crois que moi j'appelle, bon, je suis confronté à cette problématique des mots. Moi je parle plutôt de sensibilisation à la culture et à l'art plutôt qu'éducation. Mais bon, l'important c'est qu'on se retrouve dans les actes. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que la sensibilisation? C'est ce qu'on est. On a parlé d'empathie, on a parlé d'humanisme. C'est son expérimentation à la liberté. Or, si dans une société, on ne favorise pas l'expérimentation de la liberté, à commencer par le plus jeune âge, nous, en France, on a l'école maternelle qui est souvent louée à travers le monde. Mais pourquoi ? Parce que dans l'école maternelle, il y a encore justement cette expérimentation de la liberté. C'est-à-dire quand on va, on s'amuse, on apprend en s'amusant. Tout à l'heure, on parlait du jeu, quelqu'un parlait de jeu, etc. Mais pourquoi après on ne joue plus ? Pourquoi après les choses deviennent sérieuses ? Donc je crois qu'il faut qu'on revienne sur qu'est-ce que c'est qu'un apprentissage, qu'est-ce que c'est que l'autre, comment se confronter à l'autre, comment construire avec l'autre, comment faire avec l'autre. Donc ce ne sont pas des petites questions, c'est des questions qui intéressent aujourd'hui tous les acteurs potentiels de la société, à commencer par ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire les citoyens et les citoyennes. Mais il faut bien mesurer l'enjeu. L'enjeu, c'est ce qu'on a vécu en 2015, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est confronté au chaos. Donc ce chaos, qu'est-ce qu'on donne comme alternative à ce chaos ? Est-ce qu'à un moment donné, la culture, l'art, donc tout à l'heure, il a été dit qu'on ne croyait pas à l'art, peut-être c'était cela le problème, mais est-ce que vraiment nous croyons à ce que nous faisons ? Et est-ce que dans ce que nous faisons, mettons vraiment tout le potentiel, toute la légitimité peut-être qu'on devrait avoir ? C'est ce qu'on doit se poser aujourd'hui dans les politiques publiques. Si on veut rétablir un peu de confiance, parce que la confiance, elle a disparu, parce que la confiance, elle n'est pas avec nous. On est sujet à caution et on sait très bien que cette crise de la politique, elle affecte toutes les sphères de l'institution. Tout à l'heure a été dit les associations. En fait, finalement, c'est tous ces mouvements-là qui réclament aussi une place. Et peut-être que aujourd'hui, si dans la loi NOTRe, la loi Nouvelle Organisation de la République, nous avons réussi à inscrire les droits culturels comme un élément fondamental des politiques publiques, peut-être que c'est une première réponse, mais c'est une réponse qui devra se construire. Mais cette réponse-là n'est-elle pas en relation avec la question qui nous préoccupe, c'est-à-dire cette expérimentation de la liberté pour chacun, à commencer par le tout petit enfant? Est-ce qu'on peut aujourd'hui penser que dans le monde que nous vivons, Christopher l'a dit, nous avons accès au catalogue complet de David Bowie, mais nous avons aussi accès à d'autres catalogues que nous ignorions il n'y a pas encore longtemps, sauf quelques esthètes. C'est-à-dire que nous avons accès à des catalogues de l'humanité, c'est-à-dire de gens qui ont des cultures complètement différentes des nôtres. Et ne sont-elles pas nos égales ? c'est une question importante. Dans la fondation aujourd'hui, on a vécu quand même dans les 30 dernières années une référence artistique, culturelle, qui a complètement été métamorphosée. Aujourd'hui, si on disait voilà, les 100 œuvres, ou les, tu parlais des œuvres et les 100 œuvres qui nous fondent, qui nous ont fondés il y a 30 ans, ce ne seraient peut-être pas les mêmes. Donc, je veux dire que c'est une première question. La deuxième question, c'est le lycéen qui disait, si vous voulez que les jeunes s'intéressent, il faut qu'ils participent. Reste à savoir ce que c'est que la participation. Moi, j'ai l'expérience, par exemple, de la Cinémathèque. Il y a un atelier qui fonctionne depuis, on va dire, une quinzaine, vingtaine d'années. La ville de Martigues fait partie des 20 centres un peu fidèles. 100 ans de jeunesse. Ce sont des jeunes de collégiens de 14, 15 ans, etc. On leur donne, ils ont une thématique, après ils choisissent. Mais je voulais dire, mais la qualité de ce qu'ils font, mais ils sont libres de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont un accompagnateur, quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'ils font. Et quand cet accompagnateur, il joue bien son rôle, c'est-à-dire qu'il s'efface complètement devant leurs idées. Et même là, on avait quelque chose de vraiment très intéressant, parce que dans un des films qu'ils ont produit cette année, il y avait une histoire d'amourette entre deux personnages. Et en fait, les deux accompagnateurs se sont retirés. Ils sont partis du lieu où se tournait. Eh bien, finalement, la scène a été très réussie. Elle avait une profondeur que peut-être elle n'aurait pas eue si ces personnes n'étaient pas là. Ce qui montre que dans ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle, il y a beaucoup plus à découvrir que plutôt à montrer. Et je crois que c'est une des questions qui doit rejoindre, nous, notre problématique, c'est-à-dire comment aujourd'hui on crée de l'envie, comment on crée de l'espoir, comment est-ce qu'ensemble, avec le formidable, tu en parlais, ces formidables expériences, parce que c'est vrai que toutes les expériences qu'on a vécues aujourd'hui et qu'on sait, qui vivent dans les territoires, elles ont toute leur légitimité. Comment est-ce que tout cela fait sens? Et surtout, comment ne pas trop cadrer? C'est-à-dire comment plutôt accompagner? Parce que les enseignants qui encore aujourd'hui, avec volontarisme, initient des projets intéressants avec des enfants, avec des adolescents, ont quelquefois plus de mal avec leur hiérarchie qu'avec les enfants eux-mêmes. C'est ça la question. Donc, il faut qu'on essaie de construire les choses de manière à créer un cadre, oui, mais un cadre facilitateur, c'est-à-dire un cadre de faire ensemble dans le territoire. Et là, de ce point de vue-là, les conventions territoriales, il y a des conventions qui existent entre l'État, avec la DRAC, les collectivités territoriales. Je pense qu'elles doivent, c'est bien si elles existent, mais je pense qu'aujourd'hui, on a une autre phase. Si nous disons effectivement que l'éducation artistique, enfin cet espace de liberté, est une cause nationale, il faut la replacer au centre d'un dispositif de politique culturelle. Il ne faut pas la placer sur une branche du tronc. Donc, c'est un nouveau paradigme, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être une convention parmi d'autres, mais elle doit être dans la convention générale qui s'occupe du développement et de la mise en œuvre de la politique culturelle dans le respect des droits culturels. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui sont extrêmement nouvelles et qui sont absolument passionnantes, aussi passionnantes que quand on a mis en place les politiques culturelles dans les collectivités il y a 40 ans. Aujourd'hui, il y a des politiques culturelles dans tous les territoires, dans tous les départements. Les départements, mon collègue qui est là, joue un rôle très important, fondamental, je dirais, sur l'éducation culturelle, et dire qu'on voulait les supprimer. Donc, qui va faire ce travail-là? Je pense que sur ces questions-là, il faut vraiment que, à la fois qu'on travaille le diagnostic, mais qu'on mette en œuvre de nouvelles synergies, de nouvelles pensées, de nouvelles manières de voir les choses, et faire en sorte peut-être que On s'attache aussi à développer et à reconnaître les personnes qui travaillent. Je pense par exemple dans l'éducation nationale, bon, la question des dhumistes. Nous, on a 4 dhumistes à Martigues. Il y en a des centaines, il y en a des milliers en France. Ces dhumistes-là, ils n'ont pas besoin d'être formés parce qu'ils sont formés, ils ont une formation continue. Et de plus en plus, ils ont de plus en plus de difficultés à intervenir dans le milieu scolaire, alors qu'on fait un travail formidable. Nous, depuis 20 ans, il y a des choses extraordinaires qui se font avec un vrai accompagnement et une vraie qualité, une vraie exigence artistique. Donc il faut que, surtout, que tout cela, on le garde. Il ne faut pas qu'on, sous prétexte de ce que disait Christopher, de diminution de budget, etc. Ça, c'est nos atouts, de la même manière que les enseignants qui ont la légitimité d'intervenir dans ces domaines-là, il faut qu'on le garde, parce qu'on en a besoin pour re-questionner cette politique. Et cette politique du faire ensemble, c'est Marianne Hessette qui disait tout à l'heure que de plus en plus la Fondation SNCF s'occupait de ces questions-là, mais je pense qu'il faut qu'on passe du vivre ensemble, et cette question de l'éducation artistique, elle est fondamentale, elle peut nous aider à ça, à faire ensemble, c'est-à-dire développer notre imaginaire. La question de l'art, c'est la question de l'imaginaire, c'est de se donner le droit partout, et en particulier dans l'école, c'est-à-dire ce lieu de partage, ce lieu de respect, ce lieu d'échange de l'un, de l'autre, de l'une, de l'autre, qu'on redonne cette envie de reconnaître l'imaginaire comme un processus appartenant à chacune et à chacun des personnes. Je crois que c'est cela. Et là, on est dans une évaluation qui est complètement différente que celle qu'on connaît aujourd'hui dans l'éducation nationale, notamment, je dirais même à l'université, puisqu'on est dans, n'est-ce pas, Emmanuel ? Donc, on a beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'avec le Haut Conseil, réactiver, réanimer sous les bons auspices de nos deux ministres, a un gros travail à faire et à travers, on le verra demain avec la charte. Et je crois qu'il faut vraiment que partout, on sorte d'un précaré peut-être très individuel, parce que la relation quand même à la culture et à l'art et à l'imaginaire est souvent quelque chose d'individuel, donc il faut le garder, mais il faut faire une grande affaire collective. Voilà, c'est l'enjeu aujourd'hui des politiques publiques. Et pour terminer, je dirais quand même, ça a été dit, mais dire que le ministère de l'Éducation nationale a quand même fait beaucoup d'efforts de ce point de vue-là, pour se re-questionner. On est loin du compte, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est évident. Et le ministère de la Culture l'a fait aussi par des moyens financiers importants, puisque ce sont les seuls crédits qui augmentent d'une manière très conséquente. Je dirais que l'ombre sur le tableau, c'est que le grand partenaire, qui sont les collectivités territoriales, aujourd'hui subissent des baisses de dotation et ont une situation compliquée du point de vue financier, et qu'on voit aujourd'hui remettre en cause ces politiques-là, ce qui est absolument dommageable, pour pérenniser, on peut dire, l'ordre de marche des établissements qui en ont si bien besoin. Donc on a vraiment des enjeux. La cause nationale dont tu parlais pour 2017, elle est essentielle, mais elle doit être reprise non pas dans un cadre catégoriel, mais dans un cadre vraiment de politique publique concertée et partagée.
Merci beaucoup. Il me revient de conclure avec quelques mots très très brefs. D'abord pour vous dire un grand merci à tous les intervenants de cette journée qui nous ont montré à quel point cette question était centrale, d'intérêt général pour nous tous. Je tiens à rappeler pour ceux qui sont et qui ne connaîtraient pas le Haut Conseil, que le Haut Conseil, réunissant des collectivités diverses et variées, on a aussi toutes les couleurs politiques rassemblées, et ça c'est très important parce qu'on travaille avec patience et gentillesse pour réfléchir, c'est très important ces mots, pour conduire cette réflexion autour de la culture, et on est très content de le faire ensemble. Je pense que ça montre aussi quelque chose de tout à fait essentiel. En 2011, ici dans cette université, tous les candidats à l'élection présidentielle étaient venus présenter leur programme culture. Cette année, ils ne sont pas là pour présenter à Avignon tous ensemble leur programme culture. Mais en revanche, nous, on est là. On est là pour leur proposer dans le Haut Conseil une charte qui sera ouverte demain autour de l'éducation artistique et culturelle. Nous verrons ce que nos politiques feront effectivement de cette charte, parce qu'on a souhaité qu'elle soit faite avec des mots simples qui n'opposent pas éducation populaire. Voilà. Des mots qui soient compréhensibles par tous, parce que ces mots sont essentiels pour que tout le monde puisse s'en saisir, avec des principes qui régissent cette charte et des principes qui doivent être partagés par tous. Et ça, je crois que l'élaboration par un Haut Conseil dans sa diversité est quelque chose de tout à fait essentiel par rapport à ça. Pour tout ça, je tiens vraiment à vous remercier, à remercier les membres du Haut Conseil présent, à remercier les intervenants, puisqu'on voit aussi que les initiatives de terrain sont là aussi porteuses et essentielles, toujours faites avec, j'allais dire, bonheur et un volontarisme sans faille. Et vraiment, j'ai entendu beaucoup de gens dire « mais c'est formidable d'entendre tous ces gens réunis autour de projets qui sont destinés à la jeunesse ». Et je suis content que les jeunes lycéens soient restés jusqu'au bout pour entendre nos propos, parce que c'est pour vous qu'on fait ça, vraiment. Et donc c'est aussi, pour, je le dis toujours, pour nous. Je crois que la manière dont on construira, la manière dont on dépose à la fois notre argent, notre énergie, notre volonté, dans l'espérance de la génération d'aujourd'hui et de demain, eh bien c'est la manière dont on se représentera nous-mêmes demain et aujourd'hui. Ça, je crois qu'il faut tous l'avoir en tête. C'est ça qui doit nous réunir tous ensemble. En ce sens, je trouve que l'éducation culturelle et artistique régisse pour le XXIe siècle les principes même de ce qu'on peut appeler aujourd'hui République. Merci à vous. Merci au festival, merci aux techniciens, merci à tout le monde d'avoir attendu jusqu'au bout. Merci.
Et bien voilà, c'est ainsi que se clôture cette troisième table ronde de la journée. Les intervenants, vous l'avez entendu, sont tous venus pour présenter bien ces nouvelles idées. Et monsieur le recteur de l'Académie de Nice, monsieur Emmanuel Etis, qui est aussi le vice-président du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle, a introduit une donnée essentielle, une charte qui sera présentée demain et qui sera présentée à nombre de personnalités. Une charte qui a été élaborée avec justice, précision, mais avec des mots simples. Monsieur Emmanuel Etis l'a souligné, a tenu à mettre en avant cela pour qu'elle soit compréhensible par tous. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Des initiatives de terrain qui sont faites quotidiennement, des initiatives de terrain qui sont soutenues, maintenues, argumentées, et bien voilà les fondements de cette charte qui demain sera présentée, et pour laquelle évidemment vous vivrez en direct les prémices, les balbutiements ici sur Cap Radio, avec toutes les équipe de Cap Radio qui s'est mobilisée du côté d'Avignon pour vous faire vivre en direct ces journées, ces conférences tenues autour de ce beau projet, de ces beaux projets qui rassemblent la culture et l'éducation artistique. Nous sommes ravis de vous avoir accompagné toute cet après-midi. On se donne rendez-vous demain à partir de 15h pour la suite des événements sur Cap Radio en direct d'Avignon. Les Cigales nous ont déjà fixé rendez-vous. Nous serons là. J'espère que vous serez là aussi. Et puis, je tiens à vous présenter l'équipe qui est avec nous, toute l'équipe de Cap Radio qui a fait le déplacement depuis Nice ou depuis le Var, avec Roxane qui est là en face de moi. Il y a Marie qui nous vient, elle, des Alpes-Maritimes, mais limite avec le Var. Il y a Jean-Paul que vous avez entendu, mon complice de micro toute l'après-midi. Et puis évidemment, il y a Madame Parisot qui tutore tout ce management autour de Cap Radio. Nous sommes là et nous vous faisons partager en direct des événements que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir, ni auxquels vous avez l'habitude d'assister. Eh bien, Cap Radio le fait pour vous. Vous êtes les invités privilégiés de la première web radio académique de l'Académie de Nice. On partage ensemble tout cela et on se donne rendez-vous demain après-midi pour de nouvelles aventures en direct avec vous. Et place à la musique maintenant sur Cap Radio.